Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte assez costaud, mais vraiment passionnant. Notes sur la dimension personnelle d'Éric Thézée. Ce sont des notes philosophiques, oui, denses, parfois un peu ardues, je préviens, mais très stimulantes. Alors, notre objectif ici, c'est de décortiquer ensemble ce concept clé de dimension personnelle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi c'est important, hein ? Et puis comment on peut l'approcher, notamment à travers l'art, l'interprétation. C'est un peu un voilage dans une pensée riche, parfois déroutante, mais qui vaut le coup. Prêt ?
Tout à fait. Et ce texte, d'emblée, il nous pousse à questionner ce que ça veut dire être une personne, mais au-delà des définitions habituelles, quoi. Et à voir comment cette dimension, un peu floue au début, façonne notre rapport au monde, aux autres et même aux valeurs. C'est fondamental.
Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Thézée, il pose la personne comme, ben, comme une inconnue. C'est pas juste un mot. Il la relie tout de suite à des questions assez vertigineuses, du genre « à quoi je fais référence quand je dis « moi » ou quand je pense à l'autre ? D'où viennent les valeurs ? Le sens, la vérité, le beau, le bien, tout ça. Et pourquoi certaines œuvres traversent les siècles et continuent de nous fasciner ? Le choix du mot « personne », d'ailleurs, plutôt que « sujet » ou « individu », c'est pas anodin. On sent bien que ça ouvre une porte spécifique, non ?
Ah oui, c'est tout à fait ça. Le terme « personne », il crée un écart, une sorte de tension, volontairement. Il y a d'un côté les fonctions qu'on assume, même celles de sujet pensant, et de l'autre, il y a ce qu'on est effectivement, quelque chose qui échappe toujours un peu. Et c'est là, dans cet écart, que Thézée place sa dimension personnelle. C'est pas une chose, hein. Attention, c'est plutôt un champ dynamique créé par différents espaces d'interaction et où les valeurs tendent vers la personnalisation. C'est un processus, pas un état fixe.
D'accord, un champ dynamique. L'image est intéressante. Mais concrètement, ça se manifeste comment dans nos vies ? Il parle de personnages. Si je comprends bien, c'est un peu les différents rôles qu'on joue, liés à nos fonctions. Le pianiste, le parent, l'employé. On en a plusieurs, c'est ça ?
Exactement. Et le point vraiment crucial chez Thézée, c'est que la personne, elle ne vit pas à côté de ses personnages, comme si elle choisissait un masque. Non, la personne vit en les jouant. Le personnage, c'est pas tant le rôle, mais la manière singulière dont on habite une fonction. Et ce personnage, il est jamais seul, il est partagé. Il dépend de ceux avec qui on joue, le public, la famille, les collègues.
C'est intéressant. Mais il met aussi en garde, et ça, ça m'a frappé, attention à ne pas trop s'identifier à ces personnages. Surtout ceux des récits, les nôtres, ceux des autres, ceux des œuvres. S'identifier, ça figerait la personne. Ça mènerait même à la dépersonnalisation. C'est quand même paradoxal.
Ah oui, c'est un paradoxe central. Parce que s'identifier, se figer dans un rôle, souvent un rôle simplifié ou idéalisé par un récit, eh bien, ça revient à nier la nature dynamique, multiple, relationnelle de notre propre dimension personnelle. On s'aplatit, en quelque sorte. On perd cette complexité mouvante.
D'accord.
La dimension personnelle, c'est pas un trésor caché au fond de l'individu isolé, hein. Elle émerge dans la relation, dans l'interaction entre nos fonctions et celles des autres, quand elles se rencontrent, s'inversent. Ça se passe en moi, en l'autre, entre nous, et même avec des influences extérieures. C'est relationnel, interactif, pas privé.
Je vois mieux le paradoxe, oui. Et l'enjeu, si je suis bien, est énorme. Parce que Thézée fait un lien très fort, direct, entre cette dimension et les valeurs. Il dit « personnaliser quelque chose, c'est le valoriser, carrément ». Sans cette dimension, rien n'aurait de valeur pour nous. Ni le beau, ni le vrai, ni le bien.
C'est exactement ça. Sans cette dimension personnelle active, il n'y aurait juste rien. Aucune valeur. Ni esthétique, ni logique, ni économique, ni morale. C'est elle la source. Du coup, les valeurs deviennent le signe, l'indicateur qu'elle est là, qu'elle fonctionne. Son développement, ça accroît les valeurs. Sa régression, eh ben, c'est la perte de valeur, le vide. Donc on voit bien que même si c'est un concept difficile à pincer, il est absolument central, c'est le moteur.
D'accord. Mais si cette dimension est si importante et si insaisissable, si on ne peut pas la mettre sous cloche, comment on fait pour l'étudier, l'approcher ?
Thézée nous donne une piste. Il faut regarder les œuvres. Les récits, l'art, la philo, c'est là qu'on peut la voir à l'œuvre, c'est ça ?
Oui. Il développe cette idée d'invention personnelle qui se passe dans la création. Quand quelqu'un crée une histoire, une peinture, une musique, il agence des éléments, crée des relations. Bon, certaines relations suivent la logique interne de l'œuvre, la cohérence, le style. Mais souvent, ce qui nous fascine, c'est quand ça casse cette logique, le merveilleux qui surgit, une incohérence, une obscurité. Thésée dit que ces ruptures, elles suivent une autre logique, celle des articulations personnelles de l'auteur.
Des articulations personnelles ? Qu'est-ce que c'est que ça exactement ?
La signature de l'artiste.
C'est plus profond. Ce sont les manières habituelles, souvent inconscientes, dont l'auteur lui-même, dans sa vie, passe d'un rôle à l'autre, gère les transitions entre ses propres personnages intérieurs, comment il connecte les différentes facettes de son être, en quelque sorte. Et ces articulations, ces coutures, elles s'inscrivent dans l'œuvre, malgré les intentions conscientes de l'auteur. Ça émerge de la création elle-même, du partage. Et c'est sans doute pour ça que les œuvres nous touchent si profondément, si universellement. Elles formulent des aspects de la vie personnelle que le langage courant peine à dire.
Pas des empreintes. Cette hésitation ouvre la dimension personnelle, dit-il. Ça nous sort des cases. D'accord. Alors si les œuvres sont des lieux d'invention, qu'est-ce qui se passe pour nous quand on les reçoit? Quand on lit, on regarde, on écoute. Il parle d'interprétation personnelle. J'imagine que c'est plus que juste comprendre l'histoire.
Ah oui, beaucoup plus. Et surtout, il insiste, ce n'est surtout pas s'identifier naïvement à un personnage. Ça, c'est le piège. Ça mène aux contre-vérités, on l'a vu. L'interprétation personnelle authentique, celle qui nous transforme, elle demande autre chose. Une familiarité avec l'œuvre. Comme le musicien avec son instrument. Faut dépasser l'attraction de surface, le personnage principal, l'action évidente.
Dépasser la surface pour chercher quoi alors? Les messages cachés?
Pas les messages conscients, non. Plutôt analyser la structure profonde, les relations entre les éléments, ces fameuses articulations. Surtout là où l'œuvre a des failles, des tensions, des incohérences, des zones d'ombre. C'est souvent là, dans les défauts, que se révèlent les articulations personnelles les plus significatives et qui nous disent quelque chose d'universel.
Donc il faudrait lire un roman ou regarder une œuvre un peu comme un détective qui cherche les indices ? De la structure profonde, des points de couture un peu bizarres.
C'est une bonne image, oui. Et le point clé, c'est une interprétation qui réussit à formuler une de ces articulations cachées. C'est pas juste un plaisir intellectuel, ça transforme la dimension personnelle de l'interprète. Il parle d'inexpérimentation. C'est pas une expérience sur l'œuvre, c'est l'acte d'interpréter qui est une expérience qui nous change, qui développe notre propre complexité. C'est pour ça qu'il voit la philo comme un travail coopératif. Chacun interprète les œuvres qui lui sont familières, qui l'ont construit.
C'est une vision assez active de l'interprétation. Et il parle même de vérité en interprétation, mais pas la vérité scientifique. C'est quoi une interprétation vraie alors ?
Une interprétation vraie, c'est celle qui arrive à inventer une figure, un motif reconnaissable qui éclaire l'œuvre différemment. Comme une mélodie qui émerge de notes. Une fois qu'on l'a entendue, on ne peut plus l'ignorer. Elle réorganise notre perception. Mais surtout, le critère décisif, c'est qu'elle transforme la dimension personnelle. Elle augmente sa complexité, ouvre des perspectives, nous lance à l'aventure. Une interprétation vraie, paradoxalement, elle accroît l'inconnu personnel. Elle ouvre des questions. Elle ne réduit pas l'œuvre à une explication finale.
Et son contraire, c'est la contre-vérité. C'est pas juste une erreur d'analyse.
Non. Une erreur, bon, on s'en rend compte, on corrige, ça n'a pas d'effet durable. La contre-vérité, c'est plus pernicieux. Elle naît de l'identification. Quand on prend la fiction pour la réalité, qu'on oublie le « il était une fois », elles servent souvent des fonctions, hein, rassurer, donner du sens simple, justifier. Mais le coût dit Thésée est énorme. Elles dévalorisent la dimension personnelle, enfermant dans des rôles rigides, et peuvent mener au malheur. Il prend des exemples forts. Les hommes naissent libres et égaux, ou les prophéties apocalyptiques. Pas pour dire que c'est factuellement faux, mais que ça fonctionne comme des contre-vérités. Ça prend un désir profond, liberté ou une peur, chaos, et ça les déforme en les présentant comme un fait acquis ou une fatalité. Et ça nous empêche d'agir réellement sur ces enjeux.
C'est une lecture, waouh, assez critique. Et il dit qu'on ne les combat pas juste avec des arguments logiques.
Exactement, parce qu'elle joue sur l'affect, l'identification. La logique seule n'y peut pas grand-chose. Pour Thésée, seules les expériences personnelles fortes, le partage, les rencontres déstabilisantes et surtout ces interprétations vraies qui nous ouvrent à la complexité peuvent nous aider à nous en défaire. Et c'est là qu'on revient au rôle de la philosophie. Il note que les philosophes redéfinissent sans cesse leur discipline. Pourquoi ? Parce que leur boulot, c'est justement cette interprétation active, transformatrice des œuvres de la pensée et de l'art, pour développer la dimension personnelle, la leur et celle des autres. La philo, elle agit sur ce qu'elle pense. Elle met du mystère là où on croyait savoir. Pensez au « Connais-toi toi-même » ou à Augustin sur le temps. Ça semble simple, mais quand on creuse, tout devient trouble. C'est le signe que ça touche à la dimension personnelle, que ça la met en mouvement.
Bon, si on essaye de résumer tout ça, cette dimension personnelle chez Tessier, ce serait pas un noyau dur, une essence fixe, plutôt un processus, oui, un champ dynamique qui se tisse dans nos interactions, dans nos rôles multiples, nos personnages, et dans notre confrontation aux autres, au monde, aux œuvres. Et c'est cette dimension en mouvement qui serait la source de toute valeur, c'est ça?
C'est une excellente synthèse, oui. Et la conséquence, c'est que s'engager à l'époque les œuvres, art, littérature, philo, c'est bien plus qu'un loisir ou qu'apprendre des choses. Si on s'y engage par une interprétation active, qui cherche ses articulations cachées, souvent dans les failles, les zones d'ombre, alors cette interprétation devient un moyen privilégié, non seulement pour comprendre cette dimension, mais surtout pour la développer, la transformer, accroître notre propre complexité. C'est une vraie pratique de développement personnel au sens fort.
Ça donne envie de relire certains textes autrement, c'est sûr. Pour finir, peut-être une dernière pensée, une question qui me vient de ces notes, pour qu'on continue d'y réfléchir. Thésée décrit cette dimension comme se formant dans l'articulation entre nos personnages et les différents espaces où on les joue, le public, le privé, le naturel, le pro. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un monde où ces espaces, justement, ils semblent de plus en plus se mélanger, s'interpénétrer. Le privé qui devient public sur les réseaux, le travail qui déborde sur la maison ou qui entre carrément en conflit. Quelles nouvelles articulations personnelles, peut-être un peu déroutantes, ça nous force à inventer? Quelles anciennes dynamiques ça perturbe ou ça fait même disparaître? Et au final, comment ce grand brouillage des espaces affecte notre sentiment de valeur, notre capacité à personnaliser le monde et notre expérience intime de ce que c'est être une personne? Vaste question, je sais bien, mais elle résonne fort avec notre époque, non?